Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Elle débrief.
Elle débrief.
Élodie Petit
et Elisa Casson de Elle
décryptent l'actualité la plus futile
avec tout le sérieux qu'elle mérite.
Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débrief, le podcast qui décrypte l'actualité des stars, même si actualité oblige, en ce moment on débrief surtout les têtes couronnées. Mais on va pas s'excuser, on sait que vous adorez ça. D'ailleurs, notre épisode sorti au lendemain de la mort de la reine a été notre podcast le plus écouté et on vous remercie. Si ce n'est déjà fait, allez l'écouter. Et puisque vous semblez aimer la royauté, vous reprendrez bien un peu de famille royale. Je suis Élodie Petit, rédactrice en chef adjointe de Elle.fr et mon livre sur Kate Middleton, publié chez Fayard, est toujours disponible dans les bonnes librairies. Oui, je me fais un peu de pub. Et comme chaque semaine, je suis avec Elisa Casson, journaliste forme et beauté. Salut !
Salut !
Pour nous accompagner cette semaine, nous retrouvons Capucine Tissot, chef de rubrique mode, Sarah Duverger, journaliste people, et Marie Telling, chef du service actu, qui nous rejoindra tout à l'heure. Salut !
Salut !
Oui, on est venu en nombre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Meghan Markle. Quand j'ai dit à Capucine de venir tourner avec nous un épisode sur Meghan, elle m'a dit direct « j'ai énormément de choses à dire », sur un ton hyper solennel comme ça. Ça va encore être un podcast d'au moins une heure. Prenez du pop-corn, installez-vous confortablement, c'est parti. En 2016, la planète découvre Meghan Markle, une actrice américaine au bras du prince Harry. C'est le début d'une love story qui va faire vendre beaucoup de presse. Un mariage et deux bébés plus tard, le couple s'exile en Californie, loin des ors du palais, après des moments difficiles. Depuis, Meghan est certainement une des personnalités les plus détestées du royaume. Bon, peut-être pas de la famille royale parce qu'il y a quand même le prince Andrew devant elle. On en parlera peut-être une prochaine fois, mais quand même, elle est détestée. Depuis 2020, le couple vit loin des spotlights, à côté de Santa Barbara, ne répondant plus aux obligations de la couronne. Concrètement, ils font toujours partie de la famille royale, ils ont toujours leur titre de duc et duchesse de Sussex, mais ils ne sont plus au premier plan et ils s'assument financièrement. Et la mort de la reine le 8 septembre a été l'occasion de les revoir, mais ça s'est fait dans la douleur. Lorsque la reine vit ses derniers instants, on appelle ses enfants à son chevet, ainsi que William et Harry. Le prince Charles, qui est déjà à Balmoral auprès de sa mère avec sa sœur la princesse Anne, affrète un avion pour toute la famille royale pour rejoindre l'Écosse, mais Harry ne monte pas à bord. Il sera le dernier à arriver au château de Balmoral. La reine est déjà morte. Pour resituer un peu le contexte, Harry et Meghan, ils sont en Angleterre à ce moment-là pour des engagements auprès d'ONG avec lesquels ils travaillent. Donc, ils sont déjà sur place, c'est pratique. On l'apprend le lendemain, si Harry n'est pas monté dans l'avion, c'est parce qu'il voulait venir avec Meghan. D'ailleurs, il avait fait savoir par communiqué de presse qu'il était en route avec sa femme pour Balmoral, mais Charles lui a dit qu'il n'en était pas question. Ça peut paraître très dur, mais William n'était pas avec Kate, et le prince Édouard, le plus jeune des fils de la reine, est apparu sans sa femme aussi. On comprend que c'est un moment intime et qu'on veut pas de Meghan à ce moment-là, surtout vu l'histoire récente qu'elle a avec la famille royale. elle. Le prince Harry a négocié avec son père et c'est pour ça qu'il a raté l'avion. Il n'a pas obtenu gain de cause, il s'est finalement rendu seul à Balmoral, trop tard pour faire ses adieux à sa granny. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va ressasser toute sa vie et dont il va tenir compte à son père forever. Mais pour montrer que tout va bien, il y a eu une opération de communication de crise 2 jours après, on en parlera tout à l'heure. Mais avant tout, petit tour de table les filles, de manière générale, vous pensez quoi de Meghan ? Capucine.
Alors moi j'étais pro Meghan pendant très longtemps, je l'adorais, j'ai même acheté un mug à Londres avec, d'ailleurs j'ai pris mon petit déj avec, mon petit café ce matin avec, avec Meghan et Harry qui sortent de l'église le jour de leur mariage, donc je l'adorais, je trouvais qu'elle apportait vraiment quelque chose à la famille royale, un peu de fraîcheur, de modernité. Mais depuis la fameuse interview d'Oprah, je peux plus la supporter. Je peux plus. Je trouve qu'elle est hypocrite, qu'elle ment, voilà.
Je suis un peu d'accord avec Capucine. Moi aussi, je l'aimais bien au début. Et puis, en fait, elle cherche un peu quand même. Ouais. Je trouve qu'elle fait quand même des histoires, il y a des mensonges. Oh. Et au final, on en arrive, nous-mêmes qui l'aimions au début, à la détester.
Non, mais en fait, elle joue à la victime. Elle dit oui, on me médiatise trop, blablabla. Et puis après, elle donne 50 interviews, quoi.
Oui.
Ouais. Et toi, Elisa ?
Bah moi, je casse la dynamique du groupe comme tout le temps. Quand j'aime, je suis fidèle. Donc, je l'aime depuis le premier jour et je l'aime encore. Et en fait, c'est un peu par provocation aussi, parce que je vois tous ces commentaires de haineux, parfois racistes. Et je trouve ça très, très dur.
Ah mais attends, ça, on valide pas avec
ah
ça.
Ah non,
hein,
évidemment.
Je tiens à le dire, hein, pas du tout.
Mais non, je la soutiens. C'est pas facile. Pas facile ce qu'elle vit. Et toi ?
Ben moi, c'est pas ma personnalité préférée de la famille royale, mais je déteste la façon dont elle est traitée, donc pour ça je la soutiens. Mais après, je pense que ça va se finir en divorce,
oui.
Que le prince Harry va être malheureux, qu'il va être coincé entre l'Angleterre et les États-Unis pour pouvoir voir ses enfants, donc voilà. Mais vraiment, je trouve que ça doit être horrible d'être Meghan Markle. De tout ce qu'elle se prend dans la tronche en permanence, je détesterais et j'aimerais que ça cesse.
Exactement.
Je dis ça, mais on va peut-être pas dire que du bien d'elle dans les heures qui viennent, mais on va faire une analyse intelligente. Et autre chose, la royauté en France, est-ce que ça intéresse nous qui avons coupé la tête de notre roi et de notre reine ? Oui, sachez-le, on le voit tous les jours chez elle. À chaque fois qu'on vous écrit un article sur la famille royale, vous adorez ça. Donc, il y a quand même quelque chose, comme on appelle ça, le paradoxe français, où on adore suivre les histoires de la famille royale anglaise, même si on est une république.
Oui, mais j'ai envie de dire que les Anglais, ils ont coupé la tête de leur roi bien avant nous. Et finalement, ils adorent
ils
leur
là.
Famille royale. Voilà.
Elle débrief.
Ça commence comme toujours par une rumeur. Dès 2016, les tabloïds prêtent au prince Harry une relation avec Meghan Markle. Meghan, c'est une actrice que tout le monde ne connaît pas. J'avoue, moi la première, je ne savais pas qui c'était. C'est l'héroïne de la série Suits diffusée sur Netflix, que depuis, j'ai regardée. Pendant plusieurs mois, évidemment, ils se font discrets, mais c'est le prince Harry lui-même qui va officialiser cette relation à travers un communiqué de presse qui demande aux tabloïds de la laisser tranquille. Comme toutes les femmes qui ont fréquenté un membre de la famille royale, Meghan est traquée par les paparazzi, des journalistes campent devant chez elle jour et nuit, et pire encore, certains essaient de s'introduire chez Doria Ragland, qui est la mère de Meghan. L'année suivante, en 2017, le couple annonce ses fiançailles, et c'est le début d'une histoire d'amour entre Meghan et le public, une histoire qui va pas durer longtemps. Si au début tout le monde adore l'idée d'une actrice hollywoodienne qui intègre la famille royale, un peu comme Grace Kelly à Monaco, une femme moderne, elle est actrice, elle gagne sa vie, c'est une businesswoman, elle est engagée, des rumeurs de mésentente au sein de la famille royale commencent à naître. On l'aura appris un peu plus tard, lors de la préparation du mariage qui a eu lieu en mai 2018 au château de Windsor, il y a eu des tensions entre Meghan et Kate Middleton, l'épouse du prince William, et on sait aussi que ça s'est très mal passé avec le personnel du palais. Dans son interview à Oprah Winfrey, dont on parlera tout à l'heure, Meghan affirmera que les tabloïds avaient menti en disant qu'elle avait fait pleurer Kate Middleton et que c'était l'inverse qui s'était produit, mais que Kate s'était excusée en lui offrant des fleurs. Petit rappel très important, Kate, elle est adorée du public, c'est la princesse un peu rêvée de l'Angleterre, la digne héritière de Diana. Elle est proche du peuple, elle vit une histoire d'amour qui fait rêver depuis 20 ans. Elle a donné naissance à 3 beaux héritiers qu'elle ne se prive pas de montrer aux photographes. Elle est toujours impeccable, bien habillée et bien coiffée, ce qui, rappelons-le, pour une princesse, est un critère d'adoration du public. Mais Meghan Markle, je ne l'ai pas encore dit, c'est une femme divorcée, et finalement, pour beaucoup de femmes, elle représente un miroir de la société. Elle a vécu des déceptions amoureuses, un mariage raté. Elle a eu une carrière, même si, bon, être actrice, actrice, je vous l'accorde, c'est pas la carrière de tout le monde. Donc qui de mieux pour comprendre le peuple qu'une femme qui en vient, car contrairement à elle, Kate Middleton a toujours fréquenté la bourgeoisie. Sa famille s'est enrichie quand elle était petite et elle a fréquenté les meilleures écoles du pays. Elle s'est mise en couple avec le prince William à l'âge de 20 ans et a donc intégré le cercle royal dès son plus jeune âge. Je sais que je suis en train de faire de la comparaison, ce que je déteste, mais le fait est que le traitement médiatique réservé à Meghan Markle depuis le premier jour, c'est ça. C'est la comparaison avec l'autre femme, l'autre princesse, l'autre duchesse, Kate Middleton. Et puis Meghan tombe enceinte de son premier enfant et l'annonce au moment du mariage de la princesse Eugénie. Et évidemment, on l'accuse de voler la vedette. Contrairement au reste de la famille royale, Meghan n'a pas envie de jouer le jeu des médias comme elle vient de le raconter dans l'interview pour The Cut, qui est le supplément féminin du New York Times. Vous vous rappelez que tous les bébés royaux ont été présentés avec leurs parents quelques heures après leur naissance devant les médias. Et Meghan, qui accouche à Windsor, elle préfère la discrétion. Elle présente Archie devant un seul photographe. Il n'y a pas de public. On est en intérieur. Il y a 2-3 photos qui seront prises où on verra sa mère, la reine d'Angleterre, le prince Philippe et évidemment Harry et personne d'autre. Et dès lors, tous les médias qui ne sont pas conviés, donc tous les médias du monde, n'apprécient pas qu'elle dicte ses propres règles. Enfin, c'est surtout les tabloïds qui lui en veulent. Qu'elle ne suive pas le protocole, qu'elle impose son style. Et finalement, c'est ça qu'on reproche souvent à Meghan, c'est que c'est une femme libre dans une famille qui est censée appartenir au peuple. Elle vient d'accoucher, elle est fatiguée et elle a simplement pas envie de se montrer. Meghan, elle a surtout un fardeau, c'est quoi ?
Son père.
Sa famille. Sa famille. Ou plutôt, la famille de son père, Thomas Markle. Dans les jours qui ont précédé le mariage, il y a eu des photos de Thomas Markle en train de lire un livre sur l'histoire de la royauté britannique. Et alors, évidemment, bah, c'était une paparazzade qu'il avait lui organisée contre beaucoup d'argent, ce qui n'a pas plu à la famille royale dont le mot d'ordre est la discrétion. Mais Thomas Markle, l'Américain, il avait oublié ce petit détail. Et 2 ou 3 jours avant le mariage, il a fait une crise cardiaque, certainement à cause de toute cette pression, parce qu'il y a eu beaucoup d'insultes dans la presse. Et il n'a pas été en mesure de voyager, donc c'est le prince Charles qui a conduit Meghan à l'hôtel, ce qui à l'époque était un signe de validation de l'entrée de Meghan dans la famille royale. Et il y a aussi sa demi-sœur, toujours du côté de son père, Samantha Markle, qui est atteinte de sclérose en plaques et qui est en fauteuil roulant. Alors elle, dès qu'on lui tend un micro, elle fonce, elle se prive pas de parler à la presse pour dire à quel point sa sœur les a abandonnés, elle, son père et son frère, qu'elle a ruiné son père avec ses études, parce que donc c'est le père de Meghan qui a financé ses études et on sait qu'aux États-Unis c'est très cher, et que maintenant qu'elle est actrice, elle avait tourné le dos, qu'elle donnait aucun argent à aucun membre de sa famille. Il y a des images de Samantha Markle en fauteuil roulant qui campe devant le palais de Kensington pour essayer d'entrer et de voir sa sœur. Évidemment, elle a été poliment éconduite. On lui a dit bah, « rentrez chez vous, en fait ». Et il y a aussi son frère Thomas Markle Jr. qui a écrit une lettre au prince Harry, une lettre très violente, quelques jours avant le mariage, pour lui dire qu'elle allait ruiner sa vie. Je vous en lis un petit extrait. Cher prince Harry, il n'est pas trop tard, Meghan Markle n'est clairement pas la femme qu'il vous faut. Plus le mariage princier se rapproche, plus il devient clair que c'est la plus grande erreur de l'histoire des mariages royaux. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez pas la véritable Meghan que tout le monde voit. Quel genre de personne se sert de son père jusqu'à la faillite, puis l'oublie, le laissant seul et fauché au Mexique à cause de ses dettes à elle. C'est hyper violent. Et cette lettre a évidemment été publiée. Et cerise sur le gâteau, il y a aussi le neveu de Meghan Markle qui a lancé un business de cannabis au nom de Meghan. La variété, elle s'appelle Markle Sparkle. Oui, vous pouvez rire. Oui, oui, c'est vraiment une famille, elle a un fardeau. Ouais. Il l'a lancé juste avant le mariage, c'est vraiment très chic. Hein. Donc elle a une famille assez embarrassante, mais c'est pas tout. Après le mariage, elle était brouillée avec son père à cause de l'histoire de la paparazzade et elle lui a écrit une longue lettre que le Mail on Sunday a publiée. Elle a porté plainte contre le tabloïd et elle a d'ailleurs remporté ce procès. En 2021, elle donne une grande interview vérité à Oprah Winfrey. Autant vous dire que c'était un tremblement de terre. C'est lâcher une bombe atomique au-dessus de Buckingham Palace. Elle y affirme que si elle a décidé de quitter la famille royale avec son mari, c'est parce que les tabloïds anglais atteignaient sa santé mentale et elle a révélé qu'elle avait pensé à mettre fin à ses jours. On écoute.
I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear and real and frightening constant thought.
J'avais très honte de le dire à l'époque, j'avais honte de le reconnaître auprès de Harry, surtout parce que je savais à quel point il avait souffert d'une perte. Je savais que si je ne parlait pas, alors je passerai à l'action. Je ne voulais simplement plus vivre. Elle avait demandé de l'aide, ce qui est très bien parce qu'on sait que c'est pas la première à avoir eu des problèmes de santé mentale. Avant elle, il y a eu Lady Di. Sauf que Diana, elle était très seule. Elle avait personne auprès de qui se tourner. Alors que Meghan, elle a fait appel à son mari et ensemble, ils ont pris la décision radicale de partir pour se préserver. Et bien sûr, il y a eu aussi beaucoup de racisme autour de Meghan, qui est donc noire américaine. Enfin, sa mère est noire, son père est blanc. On l'a vu d'abord de façon un peu sinueuse sur les réseaux sociaux et dans la presse. Et ensuite, c'est Meghan elle-même qui l'a déclaré dans l'interview à Oprah Winfrey que lorsqu'elle était enceinte de son premier bébé, de Archie, quelqu'un, on ne sait pas qui, au sein de la famille royale, a émis des questionnements quant à la couleur de peau du bébé. Ajoutez à ça une polémique autour des coûts de rénovation de Frogmore Cottage, leur résidence royale où ils ont emménagé. C'était trop. Tout ça a donc mené au départ de Meghan et Harry de la famille royale, une démarche baptisée évidemment dans le plus pur sexisme, le Mexit, contraction de Meghan et Exit, en clin d'œil au Brexit qui venait d'avoir lieu. Sauf que c'était, rappelons-le, une décision collective et je crois même qu'à la base c'était une décision du prince Harry, mais on préfère remettre la faute sur Meghan évidemment, puisqu'apparemment elle est la raison de tous les maux du pays.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, je hoche la tête. Ouais. C'est toujours à cause des femmes, de
évidemment.
Toute façon.
Ah, et aussi, quand ils sont partis, il y a eu une polémique sur le fait qu'ils avaient dépensé des millions pour faire des rénovations et qu'ils se barraient, tout simplement. Donc en fait, ça ne va jamais, quoi qu'ils fassent. Donc juste à temps pour le premier confinement, Meghan et Harry s'envolent pour le Canada d'abord et ensuite pour la Californie, où ils trouvent leur nid douillet et s'installent avec leur famille à Montecito. Et en 2021, la duchesse de Sussex annonce qu'elle attend un nouvel enfant. En mars de la même année, coup de tonnerre médiatique, je l'ai déjà dit, le couple donne une interview à Oprah Winfrey, la papesse de la télévision américaine. Alors là, selon l'endroit où on se trouve dans le monde, on le prend différemment. Donc les Américains, ils sont quand même derrière Meghan, évidemment, c'est la fierté, elle est américaine, ils l'aiment plutôt bien. Mais en Europe, ça ne passe pas du tout. Le couple qui a quitté la famille royale de son plein gré se lamente de ne plus être financé pour assurer sa propre sécurité, alors que je vous le rappelle, le prince Harry, il a hérité de plusieurs dizaines de millions d'euros de sa mère Lady Di, donc il n'est pas à la rue. Et Meghan aussi, elle a quelques millions en banque grâce à sa carrière d'actrice. On parlait de 5 millions de dollars au moment où elle a rencontré Harry. Et en plus, ils ont signé des deals à 8 chiffres avec Netflix, Spotify, Capucine en parlera tout à l'heure. Donc ça met tout le monde très mal à l'aise de les voir s'épancher sur le fait qu'ils doivent payer leurs factures pour leur garde du corps, sachant qu'ils ont annoncé, quand ils ont dit qu'ils voulaient quitter la famille royale, qu'ils voulaient être indépendants financièrement. Et ça, j'avoue, je suis la première à leur reprocher, ça fait vraiment enfant gâté.
Ça, c'était indécent un peu.
Ouais, franchement, oui. C'est insupportable et c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime plus Meghan.
Surtout que le prince Charles lui donnait encore de l'argent à l'époque.
En plus, ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, Meghan, elle évoque le racisme dont elle a été victime avec Archie. Et au lendemain de l'interview, la reine a publié un communiqué de presse pour dire qu'elle les aimait très fort, qu'ils feront toujours partie de la famille royale et qu'elle prend très au sérieux les accusations de racisme et que c'est un sujet qui sera débattu en privé au sein de la famille. Voilà, ça c'est une réponse qui est assez cordiale de la part de la reine, puisqu'elle renouvelle en public son amour pour le prince. D'ailleurs, on sait que ça s'est toujours très bien passé entre eux, même après le Mexit. Mais elle stipule quand même que tout doit être réglé en privé, car je vous le rappelle, dans la famille royale, on n'a pas pour habitude de parler de ses états d'âme en public, ce n'est pas chic. En août 2022, Meghan, elle a sorti un podcast qui s'appelle Archetypes sur Spotify, dans lequel elle évoque tout ça, justement, la façon dont elle a été traitée. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je déteste la façon dont les médias s'en sont pris à elle ces dernières années, mais je pense qu'il faut qu'elle arrête de parler que de ça, parce que ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Elle a plein de choses à raconter, c'est une femme très intelligente, très engagée. Quand elle prend la parole, pour moi, il faut qu'elle parle d'autre chose que du protocole, de ce qui s'est passé à Londres. On le sait que ça a été difficile, elle l'a dit à plusieurs reprises, mais quand elle a un podcast, j'aimerais que, comme c'est son espace à elle, qu'elle nous raconte d'autres choses, qu'on en apprenne des nouvelles sur elle, sur sa vie, mais pas ça. Après, en interview, je comprends, on lui pose la question, elle répond, mais s'il te plaît, Meghan, parle-nous d'autre chose.
Oui, mais ça, tu dis ça parce que t'as écouté que le premier épisode,
oui,
du podcast.
Bah oui, mais ça m'a pas donné envie d'écouter la suite.
Le deuxième,
moi,
c'est pareil. Hein.
Moi, c'est sur la notion de diva avec Mariah Carey. Moi, j'ai préféré le deuxième que le premier. J'avoue que le premier, je suis pas allée
jusqu'au bout. Capucine et moi, on a écouté que l'épisode numéro 1 avec Serena Williams.
Ah, t'as écouté le deuxième aussi. Mais oui, c'est pour ça. Ah. Moi, je trouve que dans le deuxième, je sais pas, il y a un moment, elle lance une espèce de pique qui est tellement visée. Et je suis là, genre, oh, Franchement, arrête-toi, quoi. Genre, t'as pas autre chose à faire que de...
Après, je pense que les gens l'écoutent pour ça aussi, malheureusement.
Oui, c'est vrai.
C'est devenu son fond de commerce.
Mais c'est ça, en fait. C'est que c'est devenu son fond de commerce. Et comme dit Elodie, elle a plein de trucs à raconter. Elle peut faire des trucs vraiment intéressants, mais c'est...
Et surtout, elle demande qu'on la laisse tranquille tout le temps.
C'est ça.
Et elle, c'est elle qui remet constamment de...
Arrête d'en parler, quoi. Ouais.
Après, quand t'es traumatisée, t'as besoin d'en parler. C'est peut-être sa thérapie à elle.
Peut-être,
oui,
ouais.
Mais bon.
Tu peux aller voir un psy aussi.
Aussi.
Moi, je pense qu'elle doit... J'en sais rien. Non, j'en sais rien. Je veux pas m'avancer.
J'espère pour elle, écoute, honnêtement. Bah, je pense, ouais. Elle le mérite.
Ce qui nous amène à aujourd'hui. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le prince Charles a refusé qu'elle vienne à Balmoral, ce qui est compréhensible puisqu'il n'y avait que la famille de sang, si je puis me permettre de parler ainsi. Mais samedi, énorme surprise devant le château de Windsor, on a vu Harry et Meghan apparaître en compagnie de Kate et William. Évidemment, ça sentait l'opération de communication à des kilomètres et on a appris qu'il s'agissait bien d'une demande du prince Charles qui, pendant 45 minutes, a parlé à son fils aîné William. Il a exigé de son fils qu'il fasse cette sortie devant toute la foule en deuil qui venait déposer des bouquets avec des petits mots en hommage à la reine et il lui a dit de s'y rendre avec son frère et Meghan pour montrer que dans la douleur, tout le monde était uni. Vous avez pensé quoi de ce coup de com', de ces images qu'on attendait? Moi, dans la seconde, j'ai envoyé un message à tout le monde, à toute la France.
Ah bah, moi aussi, pareil. alors, ouais, ça sent le coup de com', mais en même temps, ça fait plaisir à voir.
Je suis d'accord.
En vrai, on avait envie de cette image.
On les attendait. Après, c'était un peu glacial, quoi.
Ouais, c'était un peu gênant. Moi,
après,
ça gênant.
C'est un moment de funérailles, enfin de deuil, donc on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse des blagues, mais c'était un peu
gênant.
Entre eux, c'était glacial.
Ça se voyait.
Et puis, moi, j'ai vu des vidéos aussi. Ce qui est surtout gênant, c'est qu'il y a plein de gens dans la foule qui étaient venus les voir, qui refusaient de serrer la main de Meghan. Et ça, honnêtement, c'est ridicule. Enfin,
après, il y a une jeune fille qui lui a fait un câlin, qui lui a dit qu'elle était bienvenue. Mais c'est vrai qu'on sentait qu'elle était un peu mal à l'aise, qu'elle savait pas trop
quoi faire. Ouais.
Vous l'avez entendu, c'est le générique de Suits. Elisa, Dr Love de Elle Débrief, raconte-nous la rencontre de Meghan et Harry, le conte de fées.
Alors, c'est une histoire d'amour digne d'un téléfilm M6, hein, clairement. Tu l'as dit, été 2016, Harry est désespérément seul et se lamente auprès de son amie d'enfance, Violette. Comme des millions de personnes, le prince cherche l'amour, sauf que contrairement à des millions de personnes, bah, il peut pas vraiment aller sur les réseaux de l'amour comme Tinder, comme nous finalement, Elodie.
Non, et puis en plus, si moi je voyais le profil du prince Harry, je me dirais c'est un fake.
Exactement, comme Sharon Stone.
C'est ce que j'allais dire, comme Sharon
Stone. Attendez, est-ce que vous pensez qu'il y a une appli de rencontre pour les personnalités royales?
Ça serait
exceptionnel.
C'est les rallyes, c'est les soirées,
oui,
quoi.
Oui, c'est ça.
Ouais, mais bon.
C'est ça.
C'est un business à lancer. Establishment
Tinder. Je crois qu'il y a une idée là, il y a quelque chose. Alors Violette, qui en plus d'être amie avec le prince, gère les relations publiques de la marque Ralph Lauren. Et donc bon, elle a du réseau et elle décide secrètement de lui présenter quelqu'un. Elle dira d'ailleurs qu'elle savait parfaitement qui pouvait être sa femme idéale. Un soir, le prince Harry se rend donc à ce date arrangé et rencontre Meghan Markle. T'aimerais rencontrer qui toi si c'était un date arrangé?
Oh, bah, pour moi, ils sont tous pris. Bah, Brad Pitt.
J'en étais sûre qu'il y avait ça. Alors, de son côté, Meghan Markle, divorcée, ne connaît pas très bien la famille royale. Enfin, c'est ce qu'elle dit dans une interview. Hein. Elle explique qu'elle savait pas vraiment qui était Harry. Elle dit, je cite, « C'est amusant, car à l'époque, vu que je viens des États-Unis, je ne connaissais pas bien la famille royale. Je ne savais pas grand-chose sur Harry. Du coup, la seule chose que j'ai demandé quand elle a dit qu'elle voulait nous présenter l'un l'autre, c'était « Est-ce qu'il est gentil ?»
Alors, attends, est-ce qu'on peut diffuser cet extrait? On
Allez.
Écoute.
I didn't know much about him, and so the only thing that I had asked her when she said she wanted to set us up was, I had one question. I said, well, is he nice?
Et visiblement...
Attends, et on n'y croit pas.
Oh, enfin, moi j'ai envie d'y croire.
Non mais attends, qui ne connaît...
C'est ridicule.
Merci Capucine.
Vous avez vraiment pas de cœur.
Mais non, mais attends, mais évidemment qu'elle savait très bien qui c'était. Enfin, tu vois, tout le monde...
Mais je vois très bien ce qu'elle veut dire, genre en mode, moi je sais qui est le prince Harry. Je sais qui est le prince William, mais je
oui, mais si on te dit on va te le présenter, la première question que tu poses c'est pas est-ce qu'il est sympa. Enfin, évidemment que si une copine veut te présenter un mec, elle pense qu'il est sympa. Tu vois, tu vas poser d'autres questions. Mais attends, moi j'habite au Canada, lui il est en Angleterre. Comment... Enfin, tu vois, il y a d'autres questions que tu peux poser quand même.
Non, je trouve ça
bon,
gentil.
Okay.
Moi, je suis comme Meghan. Est-ce qu'on peut arrêter là?
Si vous nous écoutez depuis longtemps, vous savez qu'Elisa et moi on n'a pas la même conception d'amour. Deux célibataires.
Et donc bref, visiblement Harry doit être très très gentil, hein, parce que dès le lendemain, il se revoit pour aller boire un verre. Très vite, ils entament une relation qui, pendant quelques mois, bizarrement, réussit à être secrète. Mais dès la rentrée, des rumeurs de couple prince et VIP et star arrivent aux oreilles de la presse people. Là, c'est la cata. Tu l'as dit, Meghan Markle est harcelée par les paparazzi. Un scénario qu'Harry connaît malheureusement trop bien. Il y a le fameux communiqué de presse qui officialise leur relation. Et là, ils deviennent le couple le plus regardé du monde entier. On aime les voir ensemble. On aime voir les tenues de Meghan auprès d'Harry. Bon, bah, c'est le couple le plus mimes, quoi, j'ai envie de dire.
Ouais, attends, je peux t'interrompre une seconde. J'aimerais poser une question tour de table. Moi, j'ai dit déjà pour moi, mais j'aimerais savoir pour vous. Est-ce que, avant qu'ils soient en couple, vous connaissiez Meghan Markle?
Non, moi, je la connaissais.
Oui, moi,
pas.
Je regardais.
Oui, moi, je regardais aussi.
Ah, ok, d'accord.
Enfin, je regardais voilà, quelques épisodes.
Moi, de 50%. Ouais.
C'est le standard, typical night
it's
for us.
It's a cozy night. What were we doing? Just roasting chicken
roasting
and having
a chicken. Trying to roast a chicken.
Trying to roast a chicken. And it was just an amazing surprise. It was so sweet and natural and very romantic.
Vous l'avez entendu, il y a eu demande en mariage qui se fait autour d'un poulet rôti.
Oui,
moi,
ça
c'est pas
faim.
Le plat.
C'est très anglais.
Ouais, ouais. Harry s'est agenouillé comme un vrai gentleman et il a même pas eu le temps de finir parce que Meghan Markle était tellement excitée qu'elle a dit oui tout de suite. Côté bague, c'est Harry qui a imaginé la bague. C'est un bijou composé d'un gros diamant en or blanc et de part et d'autre, deux petits diamants ayant appartenu à la princesse Diana. Ça, moi, j'adore.
Oui.
Et oui. Et puis, le 19 mai 2018, devant un parterre de stars, Harry et Meghan se disent oui. Malheureusement, tu l'as dit, Elodie, la lune de miel sera de très courte durée. Très vite, Meghan Markle est pointée du doigt. On parle d'elle comme une méchante américaine, odieuse avec le personnel. On l'imagine rivale de Kate Middleton. On l'accuse même d'être la raison pour laquelle les frères ne s'entendent plus. Si leur vie publique est au plus mal, leur vie amoureuse se porte à merveille. Et le couple attend un heureux événement. Le 6 mai 2019, Meghan Markle accouche d'un petit garçon nommé...
Archie.
Merci. Et puis en octobre 2019, tout se complique, tu l'as dit. Donc ils décident de partir, de quitter leur fonction royale. On les comprend, moi la première, je les comprends. En février 2021, le couple annonce l'arrivée de leur deuxième enfant, révélant au passage la fausse couche de Meghan Markle 7 mois auparavant. Comment s'appelle le deuxième enfant ?
Lilibet.
Lilibet.
J'adore.
Qui était le surnom de Elizabeth à l'époque quand elle était petite.
Exactement. Et donc Lilibet voit le jour à Santa Barbara, c'est chic.
Ouais.
Est-ce que vous pensez qu'il y aura un troisième enfant ?
Non.
Je crois qu'ils ont dit qu'ils s'arrêteraient là.
Ah ouais ?
Mmh. Ouais.
Oh, moi, je sens bien un petit troisième.
Merci, Elisa. Depuis qu'ils ont quitté la famille royale, ils ne chôment pas. Capucine, raconte-nous ce qu'ils font.
Oui, depuis qu'ils ont renoncé à leurs titres royaux, Meghan et Harry ne sont plus considérés comme des membres actifs de la famille royale. Résultat, ils ne perçoivent plus d'argent des fonds royaux et doivent gagner leur vie par eux-mêmes. Ils ont donc dû se mettre au travail, ce qui n'a pas été compliqué à faire, puisque dès l'annonce de leur départ, des opportunités se sont présentées à eux. Moins d'un mois après l'annonce, en février 2020 donc, le prince Harry s'exprimait lors d'un sommet privé à Miami en contrepartie d'un chèque $1 million.
Sympa.
Donc sympa, on aime. Une expérience qu'il a réitérée par la suite dans d'autres villes. Puis, en mars 2020, Disney annonce que Meghan Markle a prêté sa voix au documentaire Éléphant, disponible sur la plateforme Disney+.
Qui l'a vu ?
Non.
Personne.
Non.
Ouais.
Non.
Toi ? Non.
Non, ouais, même personne. Pas, tu vois. Ouais. Mais je me dis, de temps en temps, je devrais. Bon, bref. Donc, c'est là, à ce moment-là, qu'on se rend compte que le départ du couple était préparé depuis un petit moment. On se souvient de la vidéo du prince Harry à l'avant-première du live-action du Roi Lion. À Londres, où il demande au patron de Disney, de pistonner sa femme pour faire des voix off. Donc, comme par hasard.
Ouais. C'était très gênant comme vidéo.
C'était très gênant, vraiment. Il y a aussi le contrat passé avec Apple TV+, donc pour une série sur la santé mentale, faite par le prince Harry et Oprah Winfrey. À cause de la pandémie, il y a eu pas mal de retards de production, mais The Me You Can't See est sorti en mai 2021. Donc, il y a 5 épisodes, je crois.
Ouais, pas vu non plus.
Pas vu non plus.
Et pourtant, j'ai Apple TV+.
Et pourtant, je voulais l'avoir, mais c'est ce que je disais à Sarah tout à l'heure. En fait,
ça donne pas envie.
On n'en a pas parlé. Enfin, oui, ça n'a pas fonctionné,
non.
Je pense.
Ouais.
Étonnant. Le couple a aussi négocié donc, un contrat de 3 ans avec Spotify. À travers sa société de production, il prévoit de produire des podcasts et des émissions qui, je cite, « élèvent des voix qui ne sont peut-être pas entendues ». Selon Forbes, le contrat pourrait valoir entre 15 et 18 millions de dollars. Pas trop mal.
Ça va.
Ils s'en sortent bien.
Tu payes ton loyer.
Ouais, donc comme quoi ils n'ont pas trop à se plaindre derrière, hein, franchement. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez d'ores et déjà écouter le podcast de Meghan Markle qui interroge des femmes inspirantes. Donc on l'a dit, il y avait Serena Williams et Mariah Carey pour l'instant. Quelques heures après son lancement...
Je suis sûr qu'il y aura Michelle Obama bientôt.
Bien évidemment, c'est sûr. C'est ouais. évident. Et je vais évidemment
Amal
l'écouter.
Clooney. Et Amal Clooney.
Ouais. Toute la team, quoi.
Et peut-être Malala, parce que je crois qu'elle s'entend bien
ah ouais
avec. Ouais, ça possible. Serait bien. Intéressant. Ouais. On aime. Mais en vrai, le podcast est bien. Elle se plaint un peu trop. Enfin, elle lance des petites piques, mais bon, bref. Donc, quelques
Est-ce
heures...
que tu dirais que c'est mieux que Elle débrief?
Ah bah non.
Merci.
C'est sorti du cœur.
Non, pas du tout. Quelques heures après son lancement, il était évidemment premier du classement des écoutes dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni.
Ah.
Comme par hasard. Mais leur plus grande source de revenus vient néanmoins d'un contrat de 5 ans signé avec Netflix en septembre 2020 et qui devrait leur rapporter, attention, 150 millions de dollars.
Oh.
Ouais, c'est... Ouais, franchement... Ils sont bien. Le contrat parle de production de documentaires, séries, longs-métrages, programmes pour enfants et émissions scénarisées. C'est très malin de la part de Netflix qui a compris la fascination de ses abonnés pour la famille royale britannique, notamment, évidemment, avec le succès de The Crown. La plateforme a d'ailleurs annoncé le lancement prochain d'une série documentaire sur les Invictus Games, donc c'est les Jeux Olympiques pour les vétérans de guerre qui ont été mis en place par le prince Harry. Mais aussi et surtout... C'est ça qui nous intéresse,
oui,
faut le dire.
Oui.
Une autre série documentaire, c'est comme ça qu'ils l'appellent, suivant Meghan et Harry dans leur quotidien en Californie.
Oh là, Keeping Up with the Sussexes.
Et c'est alors, exactement ce que
exactement
je disais.
C'est exactement ça.
C'est exactement ça. C'est les Kardashians, quoi.
Ouais. Et bah, justement, moi, en fan des Kardashians, j'ai vraiment hâte de voir ça.
Par contre, ça va être trop bien.
Ouais.
Ça va être
grave.
J'ai hâte.
Enfin, si c'est bien fait.
J'attends que ça. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie.
Ouais.
Mais
j'ai l'impression que tout va être décalé
va être
parce
retardé,
que
bien sûr.
Il peut pas trop.
Oui, là pour l'instant, de toute façon, je pense qu'ils ont mis un petit step.
L'heure est au dé.
Pour la suite, Marie Telling, chef du service Actu, nous a rejoint. Salut Marie.
Salut Elodie.
Tu vas nous parler du livre Palace Papers, écrit par Tina Brown, qui vient de sortir et dans lequel on apprend plein de choses, je crois.
Oui, donc Palace Papers, c'est un livre, comme tu le dis, de Tina Brown, et c'est une plongée passionnante dans les coulisses de la firme depuis la mort de Diana, parce que Tina Brown avait déjà écrit un très long livre sur Diana, précisément. Et donc là, elle s'intéresse à la vie de la famille royale depuis, et surtout aux femmes de la famille royale. Donc évidemment, il y a plusieurs chapitres consacrés à Meghan, qui nous plongent dans sa carrière avant son arrivée dans la famille royale, dans les débuts de sa relation avec Harry, dans les préparatifs du mariage un petit peu... calamiteux sur plein d'éléments, vous allez en parler, et dans les tensions entre Harry et William, entre Kate et Meghan, et bien sûr, elle aborde aussi le racisme dont Meghan a été victime, donc c'est passionnant, je le recommande. Pour l'instant, je crois que c'est qu'en anglais, mais je pense que ça va bientôt sortir en français. Mais ce qui en ressort surtout, en fait, au niveau de Meghan, c'est que c'est vraiment une histoire de clash culturel à plusieurs niveaux. Avec son arrivée dans la famille royale, déjà, il y a un clash entre la culture américaine et la culture britannique. C'est-à-dire que Meghan est très, très américaine, quand
c'est
même. Il y a un conseiller du palais qui confie à Tina Brown, par exemple, qu'elle est très forte, très motivée, élevée à penser qu'elle peut changer le monde. C'est un type de personnalité très américaine. On n'en a pas des comme ça chez nous, il dit. C'est sûr que ça a un peu clashé avec l'environnement très british et très coincé du upper class et de la royauté. Mais c'est aussi ce qui a conquis Harry. Donc, il aimait bien justement cette espèce
cet exotisme.
Cet exotisme
qu'il n'a pas connu au palais.
Exactement. Avant, il était qu'avec des héritières ou des choses comme ça, des femmes de son milieu. Et là, d'un coup, il est avec une américaine qui n'a pas froid aux yeux, qui est très ambitieuse, qui l'assume, qui veut un peu conquérir le monde. Lui, ça lui plaît, mais forcément, ça crée des tensions. Il y a aussi son côté très direct passe mal avec les équipes du palais. Parce que, par exemple, elle va s'adresser à eux de façon très américaine en leur disant pourquoi cette invitation n'a pas été envoyée alors qu'un anglais aurait dit je me demandais si tu pouvais vérifier si cette invitation avait bien été envoyée comme je pensais qu'elle avait été faite s'il te plaît Aurora, c'est-à-dire prendre énormément de pincettes
ouais.
Alors qu'elle est beaucoup plus directe et ça passe mal. Elle a aussi du mal avec la retenue anglaise, elle a du mal à contrôler ses émotions, à ne pas être dans l'émotion en fait, parce que c'est une américaine qui est...
Oui, ils sont expansifs.
Expansive, exactement. Alors que les Anglais, disons qu'ils ne le sont pas du tout.
Surtout la famille royale.
Exactement. Et vraiment, l'interview qu'elle a donnée en Afrique du Sud où elle dit, où elle remercie le journaliste de lui demander comment elle va parce que personne ouais. ne lui a demandé, ça clash évidemment avec le motto de la, avec la devise de la reine qui est never complain, never explain, quoi. Ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre. Et donc, bon, elle n'est pas du tout sur le même niveau au niveau culturel, évidemment. Et elle le dit même dans la dans l'interview, a dit « J'ai vraiment essayé d'adopter cette culture du British stiff upper lip, donc de la, c'est presque intraduisible, mais du côté un peu très pince sans rire et coincé anglais. Mais elle a vraiment pas réussi, et même au niveau de l'humour aussi, ça clash aussi. C'est-à-dire que les Anglais sont très sarcastiques, très ironiques, beaucoup dans la self-dépréciation, enfin dans l'autodérision. Elle, pas du tout. Et par exemple, quand à un moment, Tina Brown parle d'une visite qu'elle va rendre en février 2019 à des travailleuses du sexe à Bristol avec Harry, et elle leur écrit à chacune sur une petite banane qu'elle va leur donner « You are loved, you are brave ». Donc, tu es aimée, tu es courageuse. Ce qui, à Hollywood, passe très bien. En Angleterre, ça fait rire tout le monde. C'est-à-dire que c'est un peu trop sincère au niveau émotionnel pour que
ça passe. La couleur des sentiments.
Voilà, exactement. C'est
mettre
trop.
Des jolies phrases dans la tête.
Ça ne passe pas. Et le deuxième choc culturel, il a un autre niveau. C'est au niveau entre la royauté et la célébrité de la royauté et la célébrité d'Hollywood. C'est-à-dire que ça paraît super glamour, la monarchie. Mais en vrai, c'est un univers de règles et de devoirs et de hiérarchie. Il faut inaugurer beaucoup de ponts, par exemple. Et la reine Marie avait dit, elle était célèbre pour avoir dit « We are the royal family and we love infrastructures ». Donc, nous sommes la famille royale et on adore les infrastructures. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter de faire des événements qui ne sont pas glamour du tout. Et Meghan, qui a passé sa vie à vouloir être une star à Hollywood, d'un coup voit sa célébrité propulsée à un niveau qu'elle n'a jamais connu, mais en même temps, son quotidien est pas aussi glamour que ce à quoi on pourrait penser. C'est-à-dire qu'elle vit dans un petit cottage avec Harry. Quand ils veulent rénover l'appartement à Kensington, ils se font conspuer par la presse parce qu'ils veulent mettre une cuisine moderne. Et même au niveau financier, ils sont dépendants de la famille royale. Et c'est aussi ça qui va les pousser vers l'indépendance, parce qu'ils veulent avoir leur indépendance financière et être autonomes financièrement. Et idéalement, ils voudraient pouvoir faire coïncider et cohabiter leurs obligations royales et leur statut de membre de la famille royale actif avec une carrière aussi dans le privé, mais ça va pas fonctionner.
Oui, et puis ça fonctionne pas parce qu'ils ont pas arrêté de se plaindre dans l'eau. On en a parlé tout à l'heure dans l'interview d'Oprah Winfrey sur le fait qu'ils devaient financer leur propre sécurité alors qu'ils sont partis de la famille royale pour être indépendants financièrement.
Oui,
donc
c'est
ils
ça.
Ils peuvent pas tout avoir.
Non, mais exactement. Et donc, mais quand ils étaient dans la famille royale, ils avaient déjà ces velléités d'indépendance et d'autonomie financière, parce que je peux comprendre que Meghan, ça la saoule un peu en fait d'avoir une vie pas très glamour, alors que quand elle est devenue princesse, elle s'attendait pas à ça, mais
duchesse.
En fait, c'est ce que montre... Oui, duchesse. Mais quand... elle aimerait bien princesse. Mais quand... dans le livre, Tina Brown le montre vraiment, en fait, c'est que Meghan n'était pas du tout préparée à cette vie-là. Elle a même dit elle-même dans l'interview à Oprah Winfrey, elle n'était pas prête.
Ouais. Et mais personne n'est prêt, je pense.
Personne n'est prêt, mais par exemple, Kate Middleton a grandi dans un environnement anglais, coincé, très poche, et elle a eu 10 ans de préparation avec les médias.
Elle l'a rencontrée à 20 ans, donc en fait, t'es très jeune,
et d'ailleurs, c'était une des sources des tensions entre Harry et William, c'est que William a beaucoup répété à Harry qu'il allait trop vite parce que Meghan n'était pas prête. Parce que William, il avait quand même fait passer beaucoup d'années à Kate, voilà, pour la faire.
On en parlera tout à l'heure.
Pour qu'elle soit prête et pour être sûre qu'elle soit assez. Qu'elle sache dans quoi elle
s'embarquer.
Qu'elle
soit solide, quoi.
Voilà, exactement. Et là, c'est pas le cas. Et c'est vrai que le côté hollywoodien de Meghan, c'est aussi ça qui va créer des tensions avec le staff. C'est-à-dire que, par exemple, le truc très célèbre de la tiare pendant le mariage, où en fait, elle voulait essayer le diadème que lui prêtait la reine avant, et en fait, ça a créé beaucoup de tensions. À ce niveau-là, parce qu'elle s'est adressée à l'habilleuse de la reine, qui est un membre très respecté du staff, parce que c'est une des plus proches de la reine. Elle s'est adressée à elle un peu comme si c'était un staff, une costumière de la série Suits, quoi, où elle lui disait « je veux avoir le diadème tout de suite ». Et il y a eu énormément de tension autour de ça, parce que l'habilleuse l'a très mal pris, et du coup, elle a fait un peu un statement où elle a refusé carrément. Donc, il y a eu des tensions autour de ça, et c'est vrai que cette culture hollywoodienne qu'elle avait, et cette culture de la célébrité, était vraiment pas compatible avec la réalité de la famille royale, qui est beaucoup, beaucoup moins glamour. Et c'est ça, et l'autonomie financière, qui les ont poussés aussi. Et bien sûr, l'acharnement des médias et le racisme des médias qui les ont poussés à partir.
Merci Marie. Capucine, je reviens vers toi. Tu es notre experte mode. Dis-nous tout du style de Meghan.
Oui, donc qu'importe ce que l'on pense de Meghan Markle, je pense qu'on est à peu près toutes d'accord pour dire qu'elle est assez chic et élégante.
Oui, c'est vrai, elle est stylée.
Voilà. Mais si son style est aujourd'hui applaudi, ça n'a pas toujours été le cas. Avant l'officialisation de sa relation amoureuse avec le prince Harry, elle était surtout connue grâce à son rôle dans Suits, on l'a dit, où elle jouait Rachel Zane, une jeune et brillante avocate américaine. Pour la promotion de la série, elle fait pas mal de tapis rouges, mais on peut pas dire qu'elle s'illustre par son sens du style. En fait, c'est jamais catastrophique, mais on va dire qu'elle tombe toujours un peu à côté de la plaque. En 2013, elle fait par exemple un tapis rouge dans une robe bustier moulante en soie et ceinturée à la taille, donc c'est déjà pas mal. Et puis, elle accessoirise le tout avec une pochette dorée et des talons argentés.
Voir resituer dans l'époque, ça se faisait un peu.
Non, je suis désolée.
Bah, Hello, elle le faisait, c'est sûr.
Ouais, moi, sur tous les tapis rouges, j'étais habillée comme ça, ouais, en tout cas.
Non, mais là, il y a trop d'infos. Il y a la soie, la ceinture, le bustier, le doré, l'argenté.
Elle a tout vrai, donné.
Enfin, elle a tout mis dans la même tenue. La même année, elle porte aussi une autre robe bustier, longue cette fois, à strass bleu et rouge, avec des espadrilles compensées et une manchette en forme de fleur. Enfin,
alors,
voilà.
Ouais. Wow. Alors, fun fact, les espadrilles compensées, c'est la signature de Kate Middleton.
Oui, oui.
Elka Bennett, by the way.
Oui, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Donc, en fait, à chaque fois, il y a trop d'infos, ça va un peu dans tous les sens. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus top. Dans la vie de tous les jours, elle cultive un style assez intemporel et décontracté. Parmi ses indispensables, on trouve le jean, le t-shirt blanc, la veste de blazer, les talons hauts, les baskets. En gros, des bons basiques qu'on porte toutes et qu'elle mixe plutôt bien. Elle tient à l'époque son propre blog de mode et lifestyle qui s'appelle The Tig, auquel elle a dû renoncer en intégrant la famille royale. Et c'est justement à cette période que son style évolue. En intégrant la famille royale, en se mariant au prince Harry, Meghan Markle a dû renoncer à ses robes courtes et colorées pour adopter un style un peu plus conservateur. On allonge alors la longueur de ses jupes, les décolletés sont remplacés par des cols montants et elle porte même le bibi pour certaines occasions. Voilà, on avait envie de voir ça.
Ouais.
Franchement.
Moi, j'adorerais qu'on porte des bibis en France. On n'a pas du tout cette tradition.
Non,
enfin,
c'est
des
dommage.
Chapeaux,
dommage.
Tu vois, ascot, quoi.
Avec son arrivée au sein de la famille royale, elle doit également respecter des règles stylistiques assez atypiques. Par exemple, quand elle voyage à l'étranger, elle doit désormais impérativement avoir une tenue de rechange noire au cas où l'un des membres de la famille royale décède. Elle n'a plus le droit de porter des jeans autres que des jeans noirs, qu'elle ne peut
d'ailleurs,
et elle peut les porter que lors des événements dits sportifs.
Oh, waouh, je savais pas.
Voilà, on en apprend tous les jours sur Elle Débrief. Elle n'a d'ailleurs aussi pas le droit de porter des robes ou des jupes sans collant, ou de porter une jupe au-dessus du genou, ni de porter du vernis à ongles coloré. Ça fait pas mal, ça change.
Oh, ce serait notre drame, Elisa, ce serait notre drame.
Hein. Je suis en train de me dire, donc pas de rendez-vous chez Gloss Up, tu vois, c'est impossible.
Terminé Gloss Up. Malgré toutes ces contraintes, elle arrive à garder un style très élégant. Le tailleur pantalon devient son uniforme, la robe chemise sa robe d'été de prédilection, le pantalon ample et droit remplace son jean fétiche et le manteau peignoir l'accompagne à peu près partout. Elle arrive même à garder quelques pièces de son ancienne vie comme la robe trois trous, le trench, le blazer et les escarpins aquazura qu'elle porte vraiment tous les jours, quoi. Le jour, elle adopte les codes du vestiaire working girl, donc ce qui insuffle un vrai vent de modernité au sein de la famille royale. C'est pour ça que je l'aimais aussi au début. Vraiment, j'adorais ses looks et j'adore toujours ses looks. Donc ça fait un contraste avec sa belle-sœur Kate Middleton qui cultive un style bien plus guindé, plus strict et bien plus surveillé. Mais après, c'est normal, elles n'ont pas du tout le même rôle. Kate, c'est la future reine consort d'Angleterre. Donc. Ce que j'aime aussi dans le dressing de Meghan Markle, ce sont ses looks du soir. On l'a notamment vu en robe à sequins bleu nuit, légèrement fendue sur le côté, et en robe fleurie à traîne pour des grandes occasions, des galas. J'ai adoré ses looks. On se souvient aussi évidemment de sa sublime robe de mariée Givenchy qui a été élue robe de mariée la plus populaire de la décennie, figurez-vous.
Wow. Ah bon, pourtant non, mais vas-y.
On n'a pas aimé la robe de mariée de Meghan. J'ai adoré.
Moi, j'aime bien.
Donc depuis son arrivée au sein de la famille royale, je trouve qu'elle a fait un sans faute stylistique, mais qui a un coût forcément, et pas des moindres, puisque sur la seule année de 2019, elle aurait dépensé près de 240 000 euros rien que pour sa garde-robe. Ça avait fait scandale, au point qu'apparemment, elle s'était un peu fait gronder par le roi Charles. Et forcément, elle a dû changer tout ça. Aujourd'hui, Meghan et Harry ne sont plus des membres actifs de la famille royale, on l'a dit, donc elle peut s'habiller un peu plus librement. Évidemment, lorsqu'ils rentrent à Londres, par contre, pour les rares événements familiaux, obligations royales comme en ce moment avec le décès de la reine, elle doit se plier aux règles du protocole.
Merci Capucine.
Elle débrief.
Y a-t-il une malédiction des femmes de prince chez les Windsor ? Vraie question. Est-ce que les Anglais et surtout les tabloïds en attendent trop au point qu'aucune femme ne trouve grâce à leurs yeux ? Si on regarde dans le passé, Meghan Markle est loin d'être la première à s'en être pris plein la tronche. On ne peut pas ne pas penser à Camilla, désormais reine consort, qui était sans aucun doute la personne la plus détestée du royaume. On l'a traitée de briseuse de couple. Je vous rappelle que pour ça, il faut être deux. Oui, je te regarde, Elisa. Parce
non,
que je
suis tout à d'accord. Ça... Ah non, non, ah, par okay. contre, ça non. Je suis tout à d'accord.
Moi, on l'aime bien maintenant, on est d'accord.
Moi, je n'aime ni l'un ni l'autre, voilà.
Ok, très bien. On lui a collé la terrible image de marâtre alors que William et Harry ne cessent de clamer leur amour pour leur belle-mère. On l'a accusée d'être la cause de la mort de Lady Di alors que les fautifs sont ceux qui l'ont pourchassée. Elle a mis près de 20 ans à se racheter une image pour être un chouïa apprécié du public. La presse n'a pas été tendre avec elle. Vous vous souvenez peut-être du Camilla Gate en 1993, on en avait parlé dans notre épisode dédié à Camilla en avril. C'est des conversations téléphoniques privées qui ont été dévoilées dans lesquelles le prince Charles dit à Camilla qu'il aimerait vivre dans sa culotte et plus particulièrement qu'il aimerait être son tampon. Ça fait mauvais genre de la part du futur roi. Aujourd'hui, grâce à l'approbation de la reine et le fait qu'elle accède elle-même au statut de reine consort, ça va beaucoup mieux. Les tabloïds l'ont laissé tranquille, mais aussi parce qu'ils sont trop occupés avec Meghan. Mais il a fallu aussi se faire accepter au sein de la famille royale. Alors avec Kate, ça a été très facile. Elle a pris Kate sous son aile, elle l'a guidée, elle lui a expliqué ce qu'il fallait faire. Mais la reine, pendant longtemps, ne voulait même pas être dans la même pièce que Camilla. Déjà dans les années 70, quand Charles avait rencontré Camilla, la reine ne voulait pas qu'il l'épouse. Elle n'était pas vierge, elle était trop bruyante, elle fréquentait plein de garçons, elle ne correspondait pas à l'image que la reine se faisait d'une future reine consort. D'ailleurs, la reine et son mari, le prince Philippe, n'ont pas assisté au mariage civil de Charles et Camilla en 2005. Il y a juste eu une bénédiction à laquelle ils se sont quand même rendus. Pour rentrer dans les cases, on lui a demandé de perdre du poids et d'arrêter de fumer. Et puis finalement, la reine a vu que Camilla faisait beaucoup de bien à Charles, qu'elle l'apaisait. Tout le personnel du palais de Clarence House l'aime beaucoup et elle s'est mise à l'apprécier à son tour, au point de lui accorder le titre de reine consort. C'était lors d'un discours en février. Et bien sûr, l'autre femme détestée du royaume, c'est Wallis Simpson. Alors, pour les plus jeunes, Wallis Simpson, c'était l'épouse du roi Édouard VIII. Lors de leur rencontre, il est prince de Galles, héritier de la couronne. Et il part en voyage officiel aux États-Unis et Thelma Furness, qui est la maîtresse du prince à l'époque, elle demande à son ami Wallis Simpson de divertir le prince pour s'assurer qu'il ne fréquente aucune autre femme pendant son voyage aux États-Unis. Et finalement, bah, le prince tombe amoureux de Wallis Simpson, qui aura donc échoué dans sa mission auprès de son ami. Mais Wallis, elle est mariée, elle est déjà divorcée une première fois. Et oui, une américaine divorcée qui défraye la chronique. Comme Meghan. En 1936, le roi George V meurt et Édouard est proclamé roi, mais il doit choisir entre Wallis Simpson, en pleine procédure de divorce, le deuxième donc, et la couronne. Parce que le premier ministre de l'époque, Stanley Baldwin, la presse et l'opinion publique s'opposent tous à cette union. Face à la pression, il abdique avant même son couronnement pour vivre avec Wallis Simpson. Contrairement à Camilla, Wallis, elle n'a jamais été réhabilitée dans le cœur des Anglais. Elle est la femme par qui le scandale est arrivé, parce qu'on n'abdique pas quand on est roi, on se donne corps et âme à son royaume. Dans la presse à l'époque, on l'appelle la harpie, on l'accuse d'avoir fait tomber la monarchie. Et puis n'oubliez pas que le couple princier était proche de quelques figures allemandes nazies, donc vraiment, ils ont en plus rien fait pour redorer leur image. Évidemment, la presse l'accuse d'être une espionne pour Hitler. On dit qu'elle en veut à la fortune des Windsor, mais comme Camilla, Wallis Simpson a prouvé en restant avec son mari jusqu'à la mort qu'elle n'était pas qu'une maîtresse, qu'il était l'homme de sa vie. Finalement, la seule qui a échappé à la malédiction des femmes de prince des Windsor, on dirait que c'est Kate Middleton. Alors, au début de la relation, les tabloïds se sont quand même moqués d'elle. Quand ils étaient, après l'université, on l'appelait Waity Katie, Kate qui attend, parce que le prince mettait du temps à faire sa demande en mariage. Alors, faut rappeler qu'ils sont d'une autre génération, une génération où on peut se marier à un autre moment que quand on a 20 ans, plus vieux que nos parents. Donc, finalement, c'était un peu rétrograde de se moquer d'elle pour ça. Mais depuis qu'elle a intégré la famille royale, c'est Miss Parfaite. Les tabloïds l'adorent. Elle joue le jeu des photographes. Elle fait tout ce qu'on attend d'elle. On dirait bien que c'est ça qui fonctionne. Pour être appréciée, il faut être une femme docile. Parce que le point commun entre Meghan, Camilla et Wallis, c'est qu'elles ont vécu des vies de femmes libres avant d'intégrer la famille royale. Elles ont toutes été mariées, elles ont toutes divorcé. Camilla et Meghan, elles avaient des métiers et ça déplaît dans ce système monarchique qui, malgré son apparente modernité, est très ancrée dans des valeurs anciennes. Sur ce, je donne la parole à Sarah Duverger qui va nous parler des relations un peu compliquées de Harry et William.
Ouais, alors moi je vais vous expliquer. Ça fait quelques années qu'on dit partout dans la presse que les relations entre Harry et William, elles sont tendues. Et je vais essayer de vous expliquer comment tout a basculé. Donc, au départ, William et Harry, c'est deux frères, ils ont 3 ans d'écart, ils auront un caractère très différent. Ils s'entendent très bien toute leur enfance. William, c'est plutôt celui qui est sage et réfléchi. Son frère serait plus rebelle, selon la princesse Diana. Il tire la langue au paparazzi, mais c'est le deuxième de la fratrie. En gros, personne lui en veut. Il sera jamais roi. Les deux frères sont toujours présents l'un pour l'autre. Ils se soutiennent, notamment lors du décès de leur mère. Ils partagent aussi une passion pour le polo. Et on les voit tout le temps lors d'engagements caritatifs ensemble. Pour moi, c'est le moment... un peu l'âge d'or de la royauté quand ils sont tous les deux, et aussi avec Kate Middleton vers les JO en 2012. Ils rigolent tout le temps, Harry fait le pitre, Kate rigole, William lui il assure le boulot. On voit qu'ils s'entendent trop bien, que la nouvelle génération est hyper populaire. Et alors il y a quand même un point de crispation qu'on ne voit pas en tout cas de l'extérieur, c'est du coup la place dans l'ordre de succession. Harry il serait constamment rappelé par le protocole au fait qu'il deviendra du coup jamais roi. Par exemple lors des dîners, il n'est jamais assis à côté de sa grand-mère, c'est toujours William. Il sait aussi qu'il n'héritera jamais du titre de duc de Cornouailles, donc qu'à son père, et que maintenant du coup c'est William qui l'a eu au décès de la reine. Et mine de rien, ce titre rapporte quand même... en 2021, il a rapporté 23 millions de livres à Charles. Donc, c'est énorme.
Alors, attendez, j'aimerais qu'on s'arrête une seconde. De un, est-ce qu'il est obsédé par l'argent? De deux, de toute façon, il n'en veut pas de tout ça.
Ce qu'il dit. Enfin, c'est ce qu'il dit, mais en même temps...
Moi, j'ai l'impression qu'il est obsédé par l'argent.
Oui, pardon, Sarah.
Donc, bref, je disais qu'il avait... que beaucoup d'argent lui était passé à côté. Et même s'il n'est pas malheureux, il a quand même de quoi être un peu dégoûté. Tout va changer en 2016, lorsque Harry rencontre Meghan Markle. Très vite, le couple va se fiancer. Et c'est une remarque du prince William qui aurait tout fait basculer. Il lui aurait tout simplement demandé s'il était sûr de lui, s'il n'allait pas trop vite. Parce que contrairement à lui, rappelons que William a attendu près de 10 ans pour demander sa compagne en mariage, comme tu l'as dit tout à l'heure, Marie. C'est une remarque donc anodine que le prince Harry aurait très mal pris, et de là, les choses vont s'enchaîner. Donc, comme vous en avez parlé tout à l'heure, Harry et Meghan vont commencer par déménager de Kensington Palace, où ils vivaient tous ensemble avec... enfin, pas dans le même appartement, évidemment, mais avec...
Ouais, c'est un palais, donc il y a de la place. Hein.
Voilà. Il y a eu les problèmes entre Kate et Meghan pendant la préparation du mariage. Il y a eu le Mexique, donc ils sont partis, ils s'envolent pour les États-Unis. De là, ils donnent l'interview à Oprah Winfrey qui fait grand bruit, ils accusent la famille royale d'être raciste. Les tensions sont très fortes et quelques mois plus tard, le prince Philippe meurt. Harry, il vient seul aux funérailles, mais Meghan est laissée de côté. Il faut dire qu'elle n'est pas la bienvenue au Royaume-Uni. À ce moment-là, Harry et William s'affichent à peine côte à côte. Il y a une image où il y a Kate Middleton, je crois qu'il les ramène un peu l'un à côté de l'autre après les obsèques. Mais c'est la seule chose.
Apparemment, ils ont passé 3 heures enfermés, Harry, William et Charles, pour discuter, juste après ça.
Mais ça, évidemment, on ne l'a pas vu.
Ouais. C'est dommage. Ouais. Si seulement il y avait pu avoir la télé-réalité Netflix à ce moment-là, ça aurait été ça.
C'est là où on les attend. Le seul moment où les deux frères vont se réunir, c'est pour leur mère Diana. Ensemble, à l'été 2021, ils vont inaugurer une statue en son honneur dans les jardins de Kensington Palace. C'est un petit moment d'unité qui ne va pas durer parce que les projets de Meghan et Harry à Los Angeles ne plaisent pas à la famille royale. Harry s'apprête à publier une autobiographie. Le couple, y a la série documentaire Netflix, tout ça qui va arriver et qui est très mal vu. Donc maintenant, la question, c'est de savoir si le décès de la reine va rebattre les cartes. On les a vus ensemble devant le château Windsor ce samedi. Et depuis, tout le monde est au taquet pour voir comment vont se dérouler les funérailles d'Elisabeth II.
Ouais, et j'aimerais juste intervenir. Ce podcast va durer 4 heures, mais c'est pas grave, on sait que vous adorez ça. Il y avait une rumeur, t'en as pas parlé, mais c'était un gros, gros truc il y a peut-être 4 ans ou 3 ans. D'infidélité, mais du prince William.
Ah oui, je savais que c'était
vrai. Avec une nana, je vais pas citer son nom parce qu'on en a beaucoup parlé et elle a porté plainte contre toute la presse. Donc on va taire son nom. De toute façon, je l'ai oublié.
On va éviter le procès.
C'est un couple d'amis de Will et Kate. Et on a dit que la nana était la maîtresse du prince William.
Non, mais surtout qu'apparemment, c'est une amie très proche
de
Kate.
Ah oui, ils sont tout le temps là, on les voit à tous les événements. C'est vraiment des très bons amis. Évidemment, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas. Mmh. Et en fait,
c'est vrai,
on dit souvent que la brouille de base, elle est partie de là, c'est que Harry a appris que William avait une maîtresse et Harry, lui, il était sur son petit nuage, c'était le début de son histoire d'amour, donc il était en mode full fidélité et tout. Et il a dit à son frère, comment oses-tu être infidèle? Regarde ce que ça a fait, ça a détruit nos parents, ça a détruit la vie de notre mère. Et apparemment, ce serait ça, mais ça, on le saura hélas jamais.
Ouais, il adore tellement Kate, en plus Harry.
Enfin, ouais.
C'est vrai qu'ils avaient une belle relation.
Ouais. Hyper
ça me brise le cœur de plus les voir ensemble, comme tu disais, les JO et tout, c'était trop mignon. Mm. Et aussi pour les 25 ans là, de la mort de Diana, on a toutes attendu à la rédac de voir un truc, tu vois, qu'il se passe quelque chose, qu'il lui rende hommage. Rien.
Mm. Ouais. Les deux enfants, ouais, n'ont rien fait.
Enfin, je me suis dit, ils vont se réunir pour les 25 ans de la mort de leur mère, rien du tout.
Non.
C'est triste.
Merci Sarah, et dans la plus pure tradition de Elle Débrief, Elisa, tu nous as préparé un quiz.
Elle Débrief.
Alors oui, je vous ai préparé un quiz, mais comme vous avez tout entendu, tout écrit sur Meghan Markle, je pense que ça va être une question de rapidité. Mmh. Vous êtes prêtes?
Non.
Première question, quel est le vrai prénom de Meghan Markle?
Rachel.
Rachel. Rachel Meghan Markle. Ouais.
Exactement.
Qui est le nom de son personnage d'ailleurs dans Suits.
Tout à fait.
Bravo.
Ouais. Deuxième question, on le sait, Meghan Markle a fait modifier une publicité parce qu'elle la jugeait sexiste, elle avait 11 ans, mais elle a aussi joué dans une pub quand elle était plus jeune. C'était une pub sur quoi?
Shampoing.
Les Lego.
Barbie.
Les crayons.
Dentifrice. Je sais pas pourquoi j'ai l'air
vous l'avez pas du tout.
Non.
Attends. Plus jeune, genre, c'est-à-dire plus jeune
au début de sa carrière.
Ah, genre 20 ans ou genre 10 ans?
Non, 20 ans, quand elle commençait un peu sa carrière d'actrice.
Des matelas, je sais pas.
Vous l'avez pas?
Attends.
Tu peux donner un indice sinon?
Non.
Non. Alors, une pub pour du dentifrice.
Elle serait fière aujourd'hui ou pas?
Non, pas vrai.
Enfin, ok.
Oh, je suis pas sûre.
De la nourriture pour animaux.
C'est de la nourriture, mais c'est pas pour animaux.
Du fromage.
Des biscuits apéritifs.
Ok. Oh. Bon, on aime bien des petits crackers de Belin, quoi. Ok. Très bien.
C'est pas honteux. Troisième question. Quel proche de la reine voit une passion pour Meghan Markle? Attention, quand j'entends proche.
Son mari?
Genre, non.
Wow.
Oula. Proche bizarre. De tout
proche
horizon.
De sang?
Non, non, non. Proche de la reine.
Ses chevaux?
C'est Corgi.
Oui,
c'est Corgi.
C'est
Corgi.
Corgi.
Bravo.
Dans une interview, le prince Harry a dit « Les Corgis l'ont tout de suite adopté. J'ai passé les 33 premières années de ma vie à me faire aboyer dessus. Mais là, absolument rien. Ce n'était que des queues en train de remuer. J'ai trouvé ça particulier. »
Mais alors, franchement, je comprends. Moi qui suis propriétaire de chien, Elton, je t'embrasse. Quand mon chien apprécie quelqu'un, de fait, tu vois, t'es touché, quoi. Tu te dis « Ah là là, si mon chien l'aime... » Enfin, mon chien, il aime tout le monde en même temps.
Bah, moi,
mais si mon chien l'aime, c'est que c'est quelqu'un de bien.
Moi,
quoi.
C'est ça. Moi, mon chien.
Bah, après, il s'arrête sur des gens dans la rue.
Moi aussi.
Voilà.
Super.
Merci, Elisa.
De rien.
Avant de se quitter, nous avons un courrier des lecteurs avec une question de Thomas I qui veut savoir si c'est vrai que Meghan a commencé sa carrière dans un jeu télévisé. Oui, Thomas, c'est vrai. Meghan était dans l'émission Deal or No Deal. Vous savez, on avait eu la version française présentée par Arthur, ça s'appelait À prendre ou à laisser. Oui, oui. Eh bien, elle était une des femmes qui ouvrait les valises avec les prix. En fait, c'était au début de sa carrière d'actrice, elle avait du mal à trouver du boulot, donc pour payer ses factures, bah, elle acceptait ce genre de petit job. Vous allez sur YouTube, vous tapez Meghan Markle, Deal or No Deal, vous allez être servi. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still. C'est la fin de cet épisode de Elle Débrief et on se quitte en écoutant Dr. Dre Still D.R.E., la chanson préférée de Meghan Markle. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé, laissez des étoiles sur votre application de podcast préférée et s'il vous plaît, laissez un commentaire sympa et bien sûr, partagez sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui n'aura rien à voir avec la royauté, mais on parlera d'une immense star à la vie amoureuse mouvementée, j'en dis pas plus. D'ici là, n'oubliez pas d'acheter votre Elle spéciale Reine d'Angleterre en kiosque et de lire plus d'infos sur la famille royale sur elle.fr. Salut les filles, salut tout le monde.
Salut.
Elle Débrief.
Elle Débrief. Retrouvez tous les épisodes de Elle Débrief en ligne sur les plateformes.
Élodie Petit et Elisa Casson de Elle
décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.